cours d'économie.
Le shilling ougandais domine les échanges commerciaux à Magui dans la province de l'Ituri. Le franc congolais est boudé par les commerçants. La situation inquiète la société civile. Publication de la liste des femmes micro-entrepreneurs sélectionnées pour la formation en initiative personnelle du projet Transforme. Kinshasa vient en tête avec le secteur de l'agro-transformation qui est dominante. Nous en parlons avec notre invité Jean-Luc Moilou, spécialiste en communication de l'unité de coordination du projet Transforme. Bienvenue à tous. Parlons d'abord de la clôture ce jeudi à Kinshasa des travaux de la semaine canadienne de renforcement des relations économiques. La coopération Canada-RDC se veut être une figure de mobilisation des ressources économiques en tant qu'acteur économique en cette période de guerre, d'agression. Emmanuel Elamejoa Kabedi pour les détails.
La troisième édition de la semaine canadienne en RDC est organisée par le cabinet de conseil et de facilitation d'affaires à Manevitch. Il s'est agi de renforcer les relations économiques entre le Canada et la République démocratique du Congo. Cet événement prestigieux a mis à l'honneur des secteurs tels que l'agroalimentaire, la science et l'innovation, ainsi que le génie conseil et la construction. Ainsi, il était prévu un forum économique, des ateliers spécialisés, des rencontres B2B et B2C, ainsi que des sessions de dialogue pour faciliter les échanges entre entreprises, organisations privées et institutions publiques. Ensuite, une soirée de gala pour célébrer les entreprises qui bâtissent des ponts entre le Canada et la RDC, notamment la Jeune Chambre de commerce du Congo Kinshasa au Québec et plusieurs autres organisations canadiennes et congolaises. Face à l'agression cruelle et sanguinaire qu'est subie la RDC, la coopération Canada-RDC à travers Amanivitch se veut être une figure de mobilisation des ressources économiques en tant qu'acteur économique pour y faire face.
Rendons-nous à présent dans le territoire de Magui, en Ituri, où la population préfère utiliser la monnaie ougandaise, le shilling, au détriment du franc congolais, boudé par les commerçants. Tous les prix des articles au marché et même dans les magasins sont donnés en shilling ougandais, une situation qui inquiète la société civile locale, qui s'en remet à l'autorité compétente. Sadiki Aboubakar est sur place à Magui, voici son reportage.
Il s'agit là d'un taximen moto qui fixe le prix en shilling ougandais. Pourtant, d'après lui, le franc congolais est presque égal au shilling pendant les transactions, mais comme tout le monde, il préfère utiliser la monnaie ougandaise au détriment du franc congolais. Mais quelle est la vraie valeur du franc congolais à Mahagi? Mpoula Ismaël est un cambiste.
Le franc congolais au niveau de Mahagi, c'est trop bas. Donc la monnaie qui domine, c'est shilling ougandais.
Qu'est-ce qui explique ce paradoxe?
8000 francs, c'est 10 000 shilling ougandais. Au marché, 1000 francs égale 1000 shilling ougandais. La raison est que nos mamans ne connaissent pas utiliser le taux de franc congolais. Ils arrondissent seulement.
La monnaie étant un élément de la souveraineté d'une nation, la société civile demande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour imposer le franc congolais sur toute l'étendue du pays, sans aucune exception. Depuis Mahagi, Sadiki Aboubakar, Radio Okapi.
Écho d'économie.
Publication par le projet Transforme des listes des bénéficiaires sélectionnés pour la formation en initiative personnelle. En termes des candidatures éligibles, Kinshasa vient en tête avec 46 873 candidatures, suivi de Kananga avec 24 542, puis Matadi avec 20 326. En ce qui concerne les sélections de Kinshasa alignées, 6 275 femmes, Bounia 4 710, puis Matadi et Bukavu 4706. En termes de classement par secteur, l'agrotransformation demeure en tête. Ce processus a été possible grâce à une campagne de sensibilisation, d'identification et d'enregistrement dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma, Bounia, Bukavu, Mbujimayi et Kananga. La sélection s'est basée sur la localisation et les activités capacités dans les secteurs éligibles, notamment de l'agro-transformation, industrie légère, services à valeur ajoutée et économie verte. Pour en parler, nous recevons Jean-Luc Moilou, spécialiste en communication du projet Transforme. Jean-Luc Moilou, bonjour.
Bonjour, Madame Moussaou.
L'unité de coordination du projet Transforme a procédé la semaine dernière à la publication des listes de femmes micro-entrepreneurs éligibles à la formation en initiative personnelle. Qu'est-ce qui se dégage de cette première partie?
Ce que l'on remarque surtout, c'est qu'il y a eu une grande attente qui a été créée. Vous savez que nous avions prévu dans le document du projet 25 000 places pour cette catégorie des femmes micro-entrepreneurs, mais nous avons reçu plus de 300 000 candidatures, parmi lesquels 161 700 étaient éligibles. Et de ces 161 700, nous avons procédé à un tirage des 31 379. Il faut que je vous rappelle qu'à la base, les deux partenaires, le gouvernement et la Banque mondiale, pensaient pouvoir venir en appui à 25 000 femmes dans cette catégorie. En fait, ce que l'on remarque et qui saute aux yeux, comme je l'ai dit, c'est plutôt cet éveil entrepreneurial et cet esprit des conquêtes pour savoir saisir les opportunités. Je devrais rappeler également que le programme soutien aux femmes micro-entrepreneurs vise principalement la professionnalisation des femmes. Et cet éveil entrepreneurial est un résultat qu'on peut considérer comme étant déjà atteint en termes d'attention de la part des cibles.
Dans le cadre des femmes micro-entrepreneurs, le corridor du Congo central n'a pas été pris en compte. Pourquoi cela?
Lorsque nous avons lancé cette opération de sensibilisation, identification et enregistrement des femmes micro-entrepreneurs, le périmètre est compris entre Kazangoulou et Mwanda ne faisait pas encore partie du périmètre opérationnel du projet Transforme. C'est beaucoup plus tard que le gouvernement, avec son partenaire la Banque mondiale, a décidé d'intégrer le corridor avec les localités des Kazangoulou, Kisantu, Kimpese, Mbanzangungu, Boma et Mwanda, sans compter la ville de Matadi qui, elle, se trouvait déjà dans le design originel. Donc, les auditeurs des Radio Capi devraient retenir que pour cette catégorie des femmes micro-entrepreneurs, le corridor du Congo central n'en fait pas partie. Mais par contre, dans les jours à venir, nous allons publier la sélection pour les nouvelles entreprises, autant que la sélection pour les PME établies. Vous verrez que là, nous avons pris en compte le corridor du Congo central. C'est simplement une question de programmation par rapport au calendrier des activités.
Vous parlez de la formation en initiative personnelle. Qu'est-ce que cela implique ?
La formation en initiative personnelle répond à un besoin crucial. Vous savez que l'entrepreneuriat dans notre pays fait face à plusieurs contraintes. Les gens ont tendance à mettre souvent en avant la contrainte financière. On dit non, il n'y a pas d'argent pour constituer un capital de démarrage. C'est ce qui revient souvent, mais en réalité, le besoin perçu de manière scientifique, c'est un besoin des changements des paradigmes. Dans notre pays, nous avons été préparés à être des très bons employés, mais pas initiateurs de business. Et lorsqu'on descend encore au niveau des femmes micro-entrepreneurs, ce besoin se fait ressentir davantage. Voilà pourquoi, sur base des études qui ont été menées même dans plusieurs autres pays, nous avons pu adopter cette approche qui contribue à la formation du caractère entrepreneurial. La formation en initiative personnelle a été mise au jour par une université allemande, mais formulée pour les pays du tiers-monde. D'ailleurs, le terrain d'expérimentation initial, c'est Togo. C'est à partir du Togo qu'on a mis en place ce programme qui a permis de réaliser de très bons résultats. La formation en initiative personnelle challenge trois éléments. Le premier élément, c'est l'autodétermination. Cet élément ne nous manque pas souvent dans notre environnement. Mais le deuxième élément, c'est savoir surmonter les difficultés. Au quotidien, pour les entrepreneurs, ils ne font que se battre contre des difficultés. Et le troisième élément qui intervient dans ce module de formation, c'est l'orientation vers l'avenir. Donc, lorsque j'initie une entreprise aujourd'hui, je dois savoir me battre contre toutes les contraintes. D'ailleurs, en entrepreneuriat, on ne magnifie pas les difficultés, on parle des contraintes, on parle des défis. Et grâce à cette formation, on sait comment, soit affronter le défi, soit le contourner, soit le surmonter, soit le fracasser. C'est ça le comportement que l'on apprend à travers cette formation en initiative personnelle.
Jean-Luc Moilou, merci.
Merci Madame Moussaou, merci à Radio Capi et à tous les auditeurs.